Les initiatives citoyennes.
Avec ce dernier temps de cette matinale, tour à tour, Alexandre Jardin, Elisa Lewis, Jackie Durand et aujourd'hui Diana Filipova, bonjour.
Bonjour Caroline.
Membre du collectif WeShare, précisément comment les acteurs numériques et les plateformes peuvent travailler à renouveler la politique et pas seulement parce qu'elles sont innovantes, c'est le sujet que vous nous apportez ce matin.
Absolument. Je vais vous parler de la relation entre le numérique et la politique, et notamment dans le cadre de cette période cruciale de la campagne présidentielle, des campagnes présidentielles aux États-Unis et en France. Le numérique, l'entrepreneur est toujours associé avec progressisme, voire la gauche. L'innovation technologique est ainsi vue comme synonyme de progrès social, de valeurs qui sont forcément libérales, dans un monde qui souvent polarise le nouveau monde avec l'ancien. Mais est-ce vraiment le cas ? Tout n'est pas aussi simple. Je prends deux exemples dans la campagne présidentielle américaine, notamment dans la Silicon Valley. Alors, la Silicon Valley a 99% démocrate pour Hillary Clinton, mais il y a deux contre-exemples assez intéressants. Le premier, c'est Palmer Luckey, le fondateur d'Oculus Rift, un casque de réalité virtuelle qui a été financé par une campagne participative, de financement participatif. Eh bien, on s'est rendu compte il n'y a pas longtemps qu'il finançait en secret une campagne de dénigrement d'Hillary Clinton. Très intéressant. Deuxième exemple, c'est Peter Thiel, le grand gourou de la tech, celui qui a fondé PayPal, un des premiers investisseurs de Facebook, enfin, quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur ces questions-là. Eh bien, il est libertarien, il s'est déclaré de supporter Donald Trump il n'y a pas si longtemps. Ce qui est intéressant, c'est que le discours de Peter Thiel, finalement, n'est pas forcément trumpiste, il est juste libertarien. Ce qu'il considère, c'est qu'aujourd'hui, la démocratie est devenue tout simplement incompatible avec la liberté et l'efficacité. En fait, ce qui représente pas mal de théories sur l'incompatibilité du big government, du grand gouvernement, avec ce dont on a besoin, c'est-à-dire le progrès social par le bas.
Donc ça veut dire, Diana Filipova, que l'innovation n'est pas nécessairement liée donc au progressisme, mais au-delà de cette absence de lien entre innovation et progrès, disons immédiat, quel problème selon vous posent ces plateformes-là ?
Alors, effectivement, l'émergence des plateformes de ce qu'on appelle civic tech, en fait, apporte ce qu'on peut appeler l'illusion de la neutralité. L'idée qu'on peut être transpartisan, qu'on peut ne pas créer de clivage et d'avoir une vision qui rassemble tout le monde. Alors, pour moi, ça pose deux problèmes assez communs avec la tech. Le premier, c'est ce que j'appelle l'illusion de la neutralité. On se dit qu'une technologie n'est pas de gauche ou de droite, elle, et que forcément, elle va nous permettre de créer quelque chose d'absolument transpartisan, non polarisé. Alors, c'est complètement faux, puisque on sait que la technologie est neutre puisqu'elle porte en elle-même les valeurs, le dessin, le design de ses créateurs. Le deuxième, problème, c'est ce que j'appelle, moi, le solutionnisme politique, qui est une reprise du concept de Morozov de solutionnisme technologique. On se dit qu'avec les plateformes de civic tech, tout à coup, on va combler ce trou béant qui existe entre les citoyens et le gouvernement et qu'on va recréer un nouveau souffle juste parce qu'elles existent, finalement, sans apporter une vision idéologique nouvelle. Et évidemment, ce n'est pas le cas puisque rien n'est neutre. Et aujourd'hui, c'est justement d'une vision plutôt clivante dont on a besoin pour, comme l'a si bien dit Alain Touraine, pour essayer de redonner des nouvelles valeurs, un souffle nouveau dans une politique un peu polarisée, un peu molle en fait, d'une certaine façon.
Alors, est-ce qu'il existe des plateformes précisément qui pensent réellement une vision partisane de la politique ou qui, en tous les cas, cherchent à renouveler la vie politique ?
Alors, sans rentrer dans la vision partisane de la politique, puisque moi, je ne suis pas en train de préconiser la politisation, la transformation des civic tech en partie, c'est pas du tout leur rôle. Au contraire, ils font un boulot qui est très important, c'est de créer un espace de discussion, de débat, dans un monde où il n'existe plus, tout simplement. Donc ça, c'est une chose extrêmement importante. En revanche, il faut réfléchir en deux termes. Le premier terme, c'est l'impact. Concrètement, qu'est-ce qu'une plateforme va permettre de faire, concrètement, dans le cadre des présidentielles ? Alors là, l'exemple que je prends, c'est le nouveau collectif Hello 2017, qui est lancé par Vox, et dont on va parler tout à l'heure, et qui, lui, propose de créer au-delà de la comparaison de programmes, enfin des choses assez classiques somme toute, des espaces de débat citoyens un peu partout en France. Et enfin, la deuxième chose, c'est qu'aucune campagne de porte-à-porte, aucune plateforme, aussi sophistiquée soit-elle, ne va remplacer, je le répète encore une fois, déjà l'organisation de la communauté, ce qu'il y a de plus terre-à-terre, ce qu'il y a de plus physique. Et la deuxième chose, c'est la création d'une vision proprement politique, clivante, qui demande un travail idéologique et qui n'a pas... si elle a quelque chose à voir avec la technologie, dans la pensée avec le numérique, ne peut pas se faire uniquement par le biais du plateforme.
Vous parlez du collectif Hello 2017, alors c'est tout nouveau, hein, je crois que ça a une dizaine de jours à peine. Bonjour Amélie Perrot.
Bonjour Caroline. Bonjour.
Vous êtes justement allée rencontrer ces membres du collectif Hello 2017. Déjà, c'est quoi Hello 2017 ?
Eh bien, Hello 2017, donc, comme Diana a commencé à le dire, c'est donc une plateforme sur Internet qui rassemble trois initiatives qui, en fait, existaient déjà. Vox.org, un outil qui permet de comparer les programmes des candidats. Curious, qui est une technologie qui permet d'interpeller les candidats, d'aller leur poser une question. Et Kawa, un outil pour organiser des rencontres dans la vie réelle. Et donc, ces trois initiatives ont formé une plateforme unique, Hello 2017, qui combine toutes ces activités. Donc,
Hello, c'est H-E-2-L-O. Hein.
Exactement, comme bonjour en anglais. Et sur Hello 2017, on va pouvoir donc à la fois s'informer, comparer les programmes des candidats, interpeller les candidats et se rencontrer, organiser des débats dans la vie réelle avec un objectif commun que Hello 2017 met en avant sur son site, nous faire adorer les élections.
Eh bien.
Alors oui, c'est un vaste programme. Et donc l'idée, c'est de mutualiser leurs activités pour créer cet espace. Pourquoi ? Léonore de Roquefeuille, que j'ai rencontrée, nous l'explique.
Déjà, on se connaissait bien par nos histoires mutuelles et ça nous a paru extrêmement logique de travailler ensemble pour pouvoir dépasser les sphères des petites choses que nous faisions déjà. Et aussi parce que c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour la Civic Tech en France, pour les technologies citoyennes en France. L'enjeu, c'est de réussir à se rassembler pour avoir un vrai pouvoir, pour avoir un vrai rôle dans l'élection. Le but, en fait, c'est que l'ensemble des initiatives s'emparent de la plateforme. Par exemple, on pourrait très bien imaginer que l'ensemble des initiatives Civic Tech aillent poser leurs questions aux candidats en leur demandant de se positionner sur ces thématiques de comment est-ce qu'on fait de la politique à l'ère du numérique. On pourrait très bien imaginer que l'ensemble des initiatives Civic Tech mettent leurs débats, leurs rencontres sur Hello 2017 pour pouvoir faire connaître ce qu'ils font. Et ensuite, quand nous, on va ajouter les programmes de la primaire, laprimaire.org, c'est aussi une initiative qui est née sur Internet. Et c'est ça, notre rôle, c'est de réussir à être une plateforme qui va être un porte-voix de l'ensemble de la Civic Tech française.
Justement, sur cet aspect, il y a énormément d'initiatives qui se font en France aujourd'hui sur ce sujet. Est-ce que l'objectif, c'est de devenir un mouvement ?
Le propre de beaucoup de Civic Tech, et de la plupart d'entre elles, en fait, c'est d'être des plateformes, donc des outils. Un outil, ça n'est que ce qu'on en fait. Donc, la question de savoir si on va réussir à transformer ça en mouvement, j'ai presque envie de dire que c'est pas notre propos. Notre propos à nous, c'est d'amener cet outil dans le plus de mains possible. Et ensuite, c'est là que ça va être intéressant, c'est de voir qu'est-ce que la multitude, qu'est-ce que les citoyens vont faire de ces outils-là. Est-ce qu'ils vont s'en emparer ou pas ? Et pour qu'ils puissent s'en emparer, ce qu'il faut réussir à faire, et c'est là le vrai enjeu de la Civic Tech en France aujourd'hui, c'est de réussir à, un, le communiquer à une population variée, diversifiée, représentative de la France. Et le deuxième enjeu, c'est de réussir à amener la Civic Tech dans le réel. Parce que c'est là que les mouvements commencent, en fait. Les mouvements, ils vont peut-être commencer sur Internet, mais les révolutions, elles ont commencé dans les rues. Donc, au moment où ça va aller dans la rue, au moment où ça va aller dans les cafés politiques, on pense que ça peut vraiment décoller, ouais.
Alain Touraine, est-ce que c'est une esquisse de solution pour sortir de l'impasse ?
Attention à ne pas jouer avec le feu. Parce que il se passe en ce moment quelque chose qui correspond un peu à tout ça. On a vu apparaître un mouvement, des gens qui se réunissent. Ce monsieur s'appelait Monsieur Trump. Et c'est cette fameuse classe moyenne qui est en chute libre parce qu'il n'y a pas de sécu sociale et parce que l'école est chère aux États-Unis. Donc les classes moyennes, quand elles tombent beaucoup plus sur les fesses qu'en France. Et donc à ce moment-là, vous n'avez rien en face. Madame, ce qu'on reproche à Hillary Clinton, c'est qu'elle est l'establishment. Comme me disent mes amis intellectuels américains, ils me disent, en fait, depuis Ronald Reagan, rien n'a changé, ni Clinton, ni Obama, ni Madame. C'est toujours Wall Street qui commande. Je ne prends pas parti. Mais en face de ça, vous avez cette agitation qui est une agitation dangereuse, qui est une agitation, disons, pour prendre le vieux vocabulaire qui ne correspond plus à rien, mais qu'on emploie, fascisante, où vous ne savez pas ce qui va se passer, et où vous allez tomber sur du racisme. Aujourd'hui, quand vous interrogez les gens, ils vous disent « c'est la faute aux réfugiés, c'est la faute aux immigrés », c'est-à-dire les gens qui sont les plus victimes, comment voulez-vous qu'ils soient ? coupable.
Oui, mais là, c'est pas ça, Alain Touraine. Là, l'idée, c'est que, en dehors de cette agitation dont vous parliez, certains de la société civile se prennent en main pour pouvoir lancer des mouvements qui aident les hommes politiques en France, comme aux États-Unis, à passer dans le monde d'aujourd'hui dont vous parlez.
Je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais c'est pas ce qui a exactement été dit. Qui aide, c'est-à-dire que ces agitations de base, ces réseaux d'action citoyenne dont nous parlons tous de toutes les formes, c'est bien à une condition, c'est que ça soit une manière pour mettre en rapport l'opinion et les grands problèmes par-dessus le dos des hommes politiques dépassés. Mais cela veut dire que ces mouvements doivent être liés à un candidat.
Diana
doivent les aider à lier leur action quotidienne, leur référence aux problèmes quotidiens, l'agriculture du Grand Ouest, etc., avec le changement général de décor. Si vous ne comprenez pas qu'il y a d'abord un changement de siècle et de décor, vous n'allez que renforcer les tendances les moins mises en forme, c'est-à-dire les plus dangereuses.
Diana Filipova.
Alors moi j'entends tout à fait ce que vous dites, Monsieur Touraine, c'est qu'on vit quand même dans un monde qui est extrêmement polarisé et qui, à mon avis, bien plus affreux que ce qu'on accepte bien de voir. Et effectivement, si on regarde les outils en eux-mêmes, les partis aujourd'hui qui savent le mieux mobiliser la foule, faire ce qu'on appelle le community organizing, c'est le FN d'une part et c'est Trump, comme on le voit d'ailleurs avec ce fameux Palmaloke. Donc c'est pas vraiment les seules solutions qui peuvent nous permettre de sortir de là, et surtout la création d'une vision politique renouvelée, quelque chose qui ne soit justement de droite ou de gauche, et non pas ni de droite ni de gauche, pour reprendre une expression très connue, qui doit être notre objectif. Mais ça, ce sont des choses complémentaires. C'est ça qu'il ne faut pas tout mélanger.
Merci beaucoup. Merci Diana Filipova. Merci beaucoup.